merci à tous d'être là. Et donc, ce soir, on va parler de ce livre qui s'appelle « Il renverse les puissants » et qui fait le portrait d'une douzaine, de 12 en fait, ouais, comme les apôtres par hasard, de 12 figures de chrétiens contestataires, donc qui sont des chrétiens du monde entier, qui ne sont pas tous cathos, qui ont globalement vécu au XXe siècle, pour tous. Et qui ont incarné les luttes sociales, notamment du XXe siècle, en les nourrissant par leur vie de foi. Donc c'est un livre très beau et très incarné, parce qu'il nous donne à voir des portraits de gens qui ne sont pas tous très connus. Donc il y en a qui sont très connus. Il y a Dorothy Day qui est très très connue pour nous, il y a Simone Veil qui est aussi assez connue, Emmanuel Mounier qui est assez connue, mais voilà, il y a aussi d'autres figures. Moi j'en ai découvert plusieurs, comme Dorothée Zolle, qui est une Allemande qui m'a beaucoup plu. Voilà, différentes autres figures aussi, une noire américaine que je connaissais pas, Fanny Lou Hamer, voilà, notamment des femmes, beaucoup de femmes. Donc on va donner la parole à leurs auteurs, qui sont là tous les trois. Donc on a Timothée de Reblaude, qui est membre actif et pilier du café du Dorothy, donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Timothée, il est journaliste et il écrit des livres quand il en a le temps et l'envie. Voilà, il y a aussi Jean-Baptiste Gins, qui est belge comme Mathias Pétel, et donc tous les deux, vous êtes doctorants en droit tous les deux, philo et en droit, à Louvain-la-Neuve en Belgique, et cofondateur d'un collectif qui s'appelle Bâtir le bien commun, et qui fait partie de toutes ces petites initiatives qui fleurissent ces derniers mois, ces dernières années. Il y a un peu, voilà, dans l'esprit aussi de ce qu'on vit un peu ici, et qui essaye de relier les enjeux de justice sociale à la foi chrétienne et à une vie de foi vécue notamment par des jeunes. Donc ils organisent chaque été, c'est ça, une université d'été en Belgique autour de ces questions, à laquelle j'ai pas encore eu la chance d'aller, mais ça va peut-être changer, et puis je vous invite aussi à participer si le cœur vous en dit. Donc je vais les laisser prendre la parole en fonction des portraits qu'ils ont faits, parce que moi je sais pas qui a écrit quoi. Et puis, si ça vous va, je vais poser quelques questions. Et puis ensuite, on ouvrira les questions à la salle. Donc, notez-les-vous dans votre tête ou sur un papier. Et puis, vers 22h, on clôt le débat, mais on le poursuit autour d'une bière de manière plus informelle. Voilà, merci encore à tous d'être là, et puis à vous trois. La première question que je voulais vous poser, c'était que dans l'introduction du livre, vous dites qu'on ne veut pas relancer le débat autour de la couleur politique du Christ. Je trouvais ça joliment dit. Mais en fait, c'est quand même des figures de gauche, globalement, et qui formulent une critique assez structurelle du capitalisme, voire qui prennent une option révolutionnaire pour certains d'entre eux. Donc pourquoi, vous dites que vous ne voulez pas réactiver le débat, mais en même temps, vous valorisez des figures de gauche. Pourquoi est-ce que ça vous tenait à cœur de les mettre en valeur? Est-ce que vous trouvez qu'elles sont invisibilisées, peu connues, qu'elles méritent qu'on s'y attarde?
En fait, on aurait sans doute des réponses différentes chacun. C'était aussi un peu une richesse de ce livre écrit à six mains, c'est qu'on s'est rendu compte que nous-mêmes, on n'avait pas tout à fait les mêmes perspectives. Et d'ailleurs aussi, le fait d'avoir fait une galerie de portraits, ça montre une multiplicité de parcours, une multiplicité de combats aussi. Ils sont en effet tous ancrés plutôt à gauche et plutôt dans un esprit critique de la société capitaliste industrielle. Mais on a, ça va plutôt être les enjeux d'écologie, d'autres de féminisme, d'autres vraiment de capitalisme pur. Et donc on a pas tous exactement la même idée de ce que serait la gauche chrétienne, ou est-ce qu'il faut utiliser l'expression chrétien de gauche, ou est-ce que le Christ était de gauche ou quoi. C'est un peu des questions qu'on se pose et sur lesquelles on n'est pas figé, quoi, et on est un peu en train de réfléchir. De mon point de vue, plus personnellement, je pense que ce livre participe à montrer que contre certaines intuitions qui sont celles qui disent que l'Église ou les Églises, la foi chrétienne et la critique du capitalisme et la gauche n'ont plus rien à se dire, en réalité on montre qu'il y a encore des ponts qui se sont faits et de plusieurs manières différentes. Et donc pour moi, Ce qui est, l'enjeu n'est pas de savoir est-ce que le Christ était de gauche ou est-ce que l'Évangile impose d'être de gauche, mais plutôt de montrer qu'il y a une réalité de personnes qui ont milité plutôt à gauche et qui se sont nourries de leur foi. Et donc du coup, ça ouvre une certaine famille politique et spirituelle, et on voit que ça a des tas de fécondités. Alors ils lisent la Bible d'une certaine manière, voilà, ils vont beaucoup insister sur la dimension un peu subversive des évangiles, et c'est le titre de l'ouvrage, « Ils renversent les puissants, la parole de Marie ». Ça témoigne du fait qu'il y a un contenu subversif, anti-domination, disons, dans la Bible, des personnes ancrées dans la société industrielle et capitaliste du XXe siècle ont voulu se saisir de ce contenu subversif de la Bible et l'hybrider avec une critique plutôt marxiste. Voilà, donc ça, c'est un peu deux inspirations, quoi, une inspiration évangélique et puis une inspiration plus critique, quoi, héritière peut-être de Karl Marx, mais peut-être aussi de d'autres traditions à gauche. Et cette famille existe. Maintenant, elle n'épuise pas, sans doute, les manières de se rapporter aux évangiles.
Mais on sent que c'est une famille quand même assez minoritaire. Et il y a des... Enfin, quand on pense à des chrétiens contestataires, il y a quand même des figures qui reviennent un peu tout le temps. Donc, est-ce que ces 12 figures, elles ont été un peu évidentes, quoi ? Vous avez un peu siphonné tout ce que vous pouviez pour les trouver ? Ou est-ce que vous en avez quand même écarté quelques-unes ? Est-ce que vous avez beaucoup débattu entre vous pour ne garder que ces 12-là ?
Alors, ça a été un travail assez important sur lequel on a passé beaucoup de temps de choisir ces figures-là. Il y en a quelques-unes qui étaient très évidentes, donc les plus connues, hein, tu t'en parlais, Dorothée, Simone Veil, Ivan Illich ou Emmanuel Mounier. Et ensuite, dans notre démarche de sélection de ces figures, on avait un peu plusieurs critères. D'abord un critère de fond qui était que ces figures, donc toutes du XXe siècle, même si Gustave Gutiérrez est le seul qui est encore vivant, il a dans les 95 ans, que toutes ces figures aient articulé dans leur action et dans leur pensée la foi chrétienne et cette soif de justice sociale et cette opposition au système de domination. Donc on a écarté certaines figures qu'on avait commencé à explorer parce qu'elles étaient chrétiennes et socialistes, chrétiennes et anarchistes, etc. Mais n'avaient pas forcément essayé de penser l'articulation des deux. Et ensuite, il y avait aussi des équilibres qui nous tenaient à cœur. D'abord un équilibre de nationalité ou d'origine, puisque à la suite du pape François, on est convaincu qu'il faut décentrer l'Église, la sortir d'un européocentrisme qui a aussi participé de cette logique de domination dans l'Église institutionnelle, les Églises institutionnelles.
De fait, il n'y a pas d'Italien. On dit que l'Église est trop italienne, mais il n'y en a pas un seul.
C'est pas un choix.
Et donc, on a des Européens, on a des Nord-Américains, on a un Latino-Américain, le père Gustavo Gutiérrez, et
l'Afrique du Sud.
Deux Africains, voilà, Desmond Tutu et Alioune Diop. On aurait pu avoir des chrétiens asiatiques aussi, mais pour être honnête, on n'en a pas trouvé qui nous portait suffisamment pour s'engager sur un portrait. Et un autre, voilà, il y a aussi un équilibre de genre, un peu de parité, hein, comme je le disais, il y a pas mal de femmes et c'est aussi un choix de notre part. Et également au niveau confessionnel, on a voulu ne pas être catholico-centré, donc on a Desmond Tutu qui est archevêque anglican, Vita Hutton Studer qui est
épiscopalienne.
On n'a pas d'orthodoxe, mais...
Des protestants et des catholiques.
Oui, voilà, des protestants et des catholiques. Et donc on a voulu avoir cette mosaïque qui montre aussi la diversité des manières dont on peut porter ce christianisme contestataire et qui, on l'espère, permettra aussi aux lecteurs de se retrouver au moins dans certaines parties de certains portraits. Porter ce courant qu'on a un peu nommé comme ça, enfin on pourra en parler après, ouais. Mais voilà.
Justement,
je peux rajouter un petit quelque chose.
En fait,
moi j'ai trouvé cet exercice extrêmement rassurant, Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on va au moins en avoir 8, peut-être 10, super, on en a 12, en plus ça fait un chouette chiffre, pour des raisons évidentes. Et en fait, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait une vraie richesse historique dans cette articulation, cette hybridation entre la critique du capitalisme et la foi chrétienne. Et je pense que derrière chaque figure, en fait, il y a souvent tout un mouvement. Et donc, en fait, derrière chaque figure, on aurait pu en choisir bien d'autres. Je prends un exemple, Fanny Lou Hamer, on l'a choisie parce qu'elle elle représentait, elle incarnait magnifiquement bien l'histoire de la Black Church aux États-Unis. Donc l'émancipation des Afro-Américains, c'est quand même essentiellement fait par une politisation qui a eu lieu dans les espaces religieux. Et donc derrière Fanny Lou Hamer, il y a vraiment des centaines de militants chrétiens et chrétiennes qui auraient tout à fait, ils auraient très bien pu se retrouver dans cet ouvrage. Et donc on est quand même arrivé au terme de cet exercice de recherche avec cette idée fondamentale qu'on n'est pas seul. Et que, en fait, souvent, cette idée de tradition, de se revendiquer de racines, on l'associe plutôt aux chrétiens conservateurs, voire réactionnaires et nationalistes. Et nous, en fait, à travers cet exercice, je ne sais pas si c'était l'intuition originelle ou c'était plutôt en fait, le fruit de notre recherche, mais on s'est rendu compte qu'on a aussi une histoire, on a des figures à revendiquer. Elles n'étaient pas uniquement des personnalités marginales, elles faisaient partie de mouvements intellectuels et sociaux très puissant, et donc voilà, c'était assez revigorant de se rendre compte qu'on avait aussi une continuité historique et qu'on s'inscrivait dans une certaine filiation.
Et alors sur le choix du terme contestataire, tu le disais Timothée, mais pourquoi ne pas avoir dit chrétien de gauche ou chrétien révolutionnaire, bon tous ne sont pas vraiment révolutionnaires, pourquoi c'est ce mot-là qui s'est imposé alors même que l'association n'est pas... à ma connaissance, tellement connue déjà, c'est pas une expression consacrée.
Oui, bah en fait, on en a beaucoup discuté entre nous et on avait aussi des manières de voir assez différentes. Je pense que sur le fond, c'était avant tout une question d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que toutes ces figures-là ne se reconnaissent pas forcément elles-mêmes dans l'étiquette de gauche. Une grande particularité de ces figures qui est lié, je pense, à leur foi chrétienne, c'est de rejeter les étiquettes, d'essayer d'échapper un petit peu aux délimitations fixées, rigides, etc. Moi, à titre personnel, j'ai du mal avec l'expression chrétien de gauche pour plusieurs raisons. D'abord parce que pour moi, ça sonne toujours comme une sous-catégorie de chrétiens ou de catholiques. Enfin voilà, comme une espèce un peu à part de chrétiens, et je pense qu'on voulait montrer aussi dans ce livre que c'était que ces figures-là étaient pleinement chrétiennes et que la foi était quelque chose qui animait vraiment leur combat. Voilà, il y a aussi je pense quelque chose d'un petit peu générationnel qui est que par rapport aux anciennes générations de chrétiens qui ont porté ces combats-là, on peut avoir des divergences dans la manière de se rapporter à la foi, à l'Église. La question écologique aussi est quelque chose qui change un petit peu la donne. Et donc cette expression de christianisme contestataire, on va dire qu'on y est arrivé par une espèce de compromis en explorant plein de possibilités, voilà, chrétien révolutionnaire, chrétien révolté, enfin, chrétien socialiste, et il n'y avait rien de tout ça qui convenait. Et donc on est arrivé à cette expression qui à mon avis dit ce qu'il y a de plus commun entre eux, c'est-à-dire d'avoir cette foi chrétienne chevillée au cœur et de la mettre au service d'une contestation de systèmes de domination qui prennent des visages différents en fonction de l'époque dans laquelle ces figures évoluent et le lieu depuis lequel elle parle. Et donc voilà, donc c'était finalement on a aussi voilà eu beaucoup d'échanges pour arriver à quelque chose qui ressemble à un compromis, mais je pense qu'on en est assez content parce que ça permet aussi de mettre un nom en fait. Bah, par exemple, il y a le livre À la gauche du Christ de Schlegel et Peltier. En fait, moi j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même famille d'idées que par exemple dans les chrétiens de gauche de ce bouquin là il y a des gens qui sont dans une option beaucoup plus réformiste, beaucoup plus social-démocrate, et nous, nos figures, elles sont quand même assez clairement dans une critique frontale du système capitaliste.
Et justement, je trouve que c'est intéressant, vous dites dans le livre qu'il y a une forme de... Enfin, vous avez l'air de le déplorer, qu'il y a une forme d'allergie ou d'imperméabilité de beaucoup de chrétiens à justement une critique, qui serait, enfin, à la théorie critique et donc à la critique d'un système et donc au diagnostic des sciences sociales, notamment de la sociologie, etc. Pourquoi, à votre avis, il y aurait cette forme d'allergie? Est-ce que c'est... par peur du conflit, par attachement à certains privilèges? Comment expliquer qu'historiquement, il n'y ait pas eu quand même beaucoup de chrétiens qui se soient emparés de ce diagnostic des sciences sociales qui est quand même aujourd'hui assez courant, quoi, en tout cas dans le monde universitaire, intellectuel, de voir les choses comme des systèmes...
Ouais, on détaille pas énormément ce point, donc c'est peut-être un peu spéculatif la réponse que je vais te donner. Je crois que peut-être qu'il y a quelque chose auquel les chrétiens sont assez attachés. Donc, ce qu'on dit dans l'introduction du bouquin, c'est que finalement, il y a une réflexion au sein, en tout cas de l'Église, dans les milieux chrétiens dans lesquels nous on a évolué, il y a beaucoup de réflexions sur le comportement moral. Donc, est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je me comporte adéquatement? Est-ce que je fais de la place dans ma vie pour la charité à l'égard d'autrui? Mais ça ne s'accompagne pas d'une critique des structures de domination, que ce soit par exemple le patriarcat ou le capitalisme, etc. À mon sens, une des raisons, c'est parce que la vie chrétienne, elle est quand même placée sous le signe du jugement à venir. Et ce jugement impose une liberté individuelle et le fait que les actions soient reliées à l'individu, puisque... À un moment donné, je vais arriver devant Dieu et je serai jugé selon la liberté que j'ai eue durant l'existence. Et donc, tout d'un coup, mettre en avant les structures, ça rend un peu plus problématique ce rapport à est-ce que les actions que je pose sont vraiment les miennes? Est-ce que je suis vraiment libre? Une autre, est-ce que du coup, je suis vraiment responsable de ce qui est donné? Donc, on enlève cette responsabilité individuelle qui peut-être, du coup, met un peu à mal une certaine vision du jugement que Dieu pose sur l'être humain. Voilà, ça c'est une réponse que je donnerais. Un autre élément qui me paraît important, c'est aussi peut-être que historiquement, l'Église s'est très focalisée sur des enjeux comme par exemple la famille ou le respect des hiérarchies. Et forcément, la tradition critique, comme elle critique les institutions, une des institutions qui est fortement critiquée par la tradition critique, c'est la famille, justement, comme étant une structure potentiellement de domination. Et je pense que beaucoup de chrétiens voient dans la tradition critique peut-être une attaque indirecte contre les structures qui tiennent au cœur des chrétiens, à savoir notamment la famille. Puis évidemment, il y a le conflit très fort. Je crois qu'avec la figure d'Ivan Illich, par exemple, ça se voit... À partir du moment où on rentre dans une critique des rapports de domination, des critiques du pouvoir, des critiques des monopoles de certaines réalités humaines par les institutions, par exemple, Illich critique l'école parce que l'école a un monopole sur l'enseignement, ou l'hôpital parce que l'hôpital a un monopole sur la santé, forcément, il arrive au moment où on va dire on critique l'Église parce qu'elle a un monopole sur l'Évangile, et donc ça crée des frictions, quoi. Et donc ça, à mon avis, ces différents éléments font que la tradition critique a du mal à dialoguer avec l'Église, et je crois que dans la frilosité des chrétiens à l'égard de la critique, tout n'est pas à jeter, quoi. Mais bon, ça c'est je veux dire, la méfiance à certains égards peut être comprise, mais bon, du coup, c'est un autre débat.
Et justement, sur la question du rapport aux institutions et à l'institution ecclésiale qui concerne quand même chacun de ces 12 témoins, même si certains sont protestants, ils n'ont certainement pas le même rapport à l'Église, mais disons pour les catholiques d'entre eux, qu'est-ce qui vous a frappé dans leur manière de se positionner, justement? Est-ce qu'ils critiquent ouvertement cette institution Église? Est-ce qu'ils veulent l'avoir changée? Est-ce qu'ils se positionnent un peu à l'extérieur? Ou est-ce que c'est finalement secondaire par rapport aux critiques des autres institutions qu'ils formulent?
Alors, je crois que c'est un dénominateur commun très clair. Toutes ces figures sont indisciplinées. Maintenant, cette indiscipline prend des formes très variées. Et c'est peut-être rassurant parce qu'on avait peut-être tous ici une sensibilité différente dans notre rapport à l'Église. Bon, moi, en toute transparence, je suis protestant, donc évidemment, ça, c'est pas exactement les mêmes enjeux pour moi. Mais elles ont toutes, à un moment donné, résisté. Alors, on en a parlé à toutes les hiérarchies sociales, mais aussi aux hiérarchies ecclésiales. parfois dans des tout petits gestes, parfois dans une théorie accomplie. Je prends un exemple d'un tout petit geste, Wrzesinski, qui est un prêtre, très attaché à l'Église catholique.
Le fondateur d'Athée des Carmes.
Tout à fait. Quand il arrive à Noisy-le-Grand dans ce bidonville, l'évêque lui intime de ne pas vivre dans le bidonville car il estime ses conditions de vie totalement indignes d'un prêtre et Joseph Wrzesinski décide de désobéir et de s'installer dans le bidonville. Alors je pense pas qu'on ne peut pas... Ici c'est une petite désobéissance mais qui évidemment ouvre un champ immense. Enfin je pense que c'est le moment charnière très clairement pour Joseph Wrzesinski. D'autres sont beaucoup plus dans une discipline beaucoup plus frontale. Je pense qu'Ivan Illich, à un moment donné, il a été prêtre, mais finalement défroqué parce que la tension était trop grande. Et donc, il a dû se situer à l'extérieur parce que sa critique, comme le disait Jean-Baptiste, du monopole radical de l'Église sur le texte de l'Évangile était incompatible. Gustavo Gutiérrez est resté.
Théologien encore. De la libération péruvien.
Merci, je devrais faire les confards.
Bah, je fais le sous-titre.
Merci, c'est hyper, hyper gentil de ta part. Jusqu'à aujourd'hui, il reste très attaché à l'Église. Et puis, évidemment, il y a les figures protestantes qui, forcément, ont un rapport différent à la hiérarchie. Mais donc, voilà. C'est clairement un dénominateur commun au sens où il nous est apparu pour suivre le Christ jusqu'au bout. Dans son message, il y a des moments de résistance, et notamment face à des injonctions des autorités ecclésiales. Maintenant, ça peut prendre des formes variées, et donc il n'y a pas une injonction qui ressort de ce livre. Pour être un chrétien contestataire, il faut nécessairement, et là vous pouvez chacun compléter, je crois que ça, c'est vraiment une décision personnelle, et je trouve que c'est ça qui est chouette aussi avec toutes ces figures, c'est qu'en fait, il n'y a pas une doctrine politique figée, notamment sur cette question-là, elles ont vraiment toutes des parcours très différents et donc on se sentira peut-être plus proche de l'une que de l'autre et en même temps ça, c'est ça que moi j'ai trouvé très chouette dans l'exercice et que j'espère qu'il plaira aussi.
C'est vrai que tu as parlé de la question de l'obéissance pour Wrzesinski. J'ai l'impression que c'est aussi une notion qui parcourt un peu le livre et les différentes figures et moi ça m'a interpellée parce que je ne connaissais pas cette figure allemande de Dorothée Zolle. Mais elle dénonce le côté aliénant de l'obéissance. Et, enfin, je trouvais ça assez intéressant de la part d'une chrétienne, notamment d'une femme, d'entendre ça. En fait, elle dit il y a une forme de disposition un peu au sacrifice ou une forme de masochisme un peu chrétien, et notamment catholique, mais certainement pas que. Enfin voilà, comment elle a vécu, je ne sais pas qui a écrit, mais comment elle a vécu dans cet écartèlement un peu entre être chrétienne et donc vivre avec cette question-là, d'une forme de dévotion quand même, de soumission au moins à Dieu et éventuellement à une institution ecclésiale et tout ça. Et puis son aspiration à casser le cadre quoi, et à être libre.
Oui, c'est très juste, il y a une vraie tension. Je me permets juste de lire une toute petite citation de Dorothée Zolle. Elle dit « Chaque jour, j'ai peur que Jésus soit mort pour rien, parce qu'il est enterré dans nos églises, parce que nous avons trahi sa révolution par notre obéissance et notre peur des autorités. » Et voilà, là, on retrouve cette tension. Il y a une seule personne pour Dorothée que l'on doit suivre jusqu'au bout, c'est Jésus. Cela veut parfois dire être en clair, en situation de désobéissance face à des autorités qui même prétendent représenter le Christ. Alors Dorothée Zolle, elle est protestante, donc à nouveau rapport un différent à la hiérarchie, et il faut comprendre ses idées dans son contexte qui lui est propre. Dorothée Zolle a été extrêmement marquée par la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Elle fait partie d'une famille où l'obéissance est un pilier, et elle a vu son père être très obéissant au régime. Alors il n'était pas spécialement nazi, mais plutôt passif, et ça l'a extrêmement marqué. Elle est passée par une phase de nihilisme total, parce que évidemment elle a tout rejeté à la sortie de la guerre lorsqu'elle s'est rendue compte de l'horreur qu'avait commis son pays. Elle était à la base très patriote, et donc forcément là il y a chez elle quelque chose quasiment de viscéral, de rejet de l'autorité, de l'obéissance, qui doit vraiment se comprendre dans ce contexte-là. Et ce que j'ai trouvé très fort, c'est qu'elle allie cette critique de l'obéissance permanente que l'on répète dans les autorités ecclésiales avec une critique féministe. Elle dit en fait, on demande souvent la soumission à certaines personnes, et notamment les femmes, et qui du coup la soumission devient une oppression, parce que la femme est celle qui est appelée à s'occuper de toutes les charges. Et donc lorsque cette dévotion n'est pas demandée à tous, mais à certaines, elle devient une forme d'oppression. Donc ça, je trouvais ça très intéressant qu'elle lie, clairement, elle fait des appels très clairs à la désobéissance civile, et elle a pratiqué d'ailleurs la désobéissance civile à maintes reprises dans sa vie, et elle lit ça avec une critique féministe. Voilà.
Oui, pour compléter très rapidement, ce qui est intéressant aussi dans ces figures qu'on a explorées, c'est que même pour celles qui essaient d'être le plus fidèle possible à l'institution, à la hiérarchie ecclésiale, c'est notamment des figures catholiques comme Dorothy Day, qui se dit elle-même dogmatique au sens où elle assume pleinement les dogmes des conciles sur la Trinité, l'incarnation, etc. Et elle rejette le christianisme libéral. Ou le père Gustavo Gutiérrez qui a vraiment essayé de rester loyal à l'Église jusqu'au bout, et qui cite Sainte Thérèse d'Avila qui écrivait « Si je meurs, je meurs fille de l'Église ». Et en fait, même dans cette recherche d'obéissance et de rester le plus possible dans les clous vis-à-vis de l'institution, il y a quand même des conflits qui naissent. Donc, le père Gustavo Gutiérrez, il se retrouve au Pérou dénoncé par des évêques conservateurs, viscéralement anti-marxistes, et qui voient en lui une espèce de théoricien marxiste déguisé en catholique, alors que lui essaye au maximum de s'inscrire dans une tradition en citant des encycliques des papes, etc. Donc voilà, il se retrouve quand même en porte-à-faux vis-à-vis de l'institution, et ensuite, plus largement, avec la théologie de la libération, il y a toute cette confrontation, alors que la théologie de la libération elle-même n'était pas un mouvement qui voulait être dans une confrontation avec l'Église, c'était pas son sujet principal. Son sujet principal, c'était le capitalisme qui génère la pauvreté et les dictatures militaires en Amérique latine. Et de la même façon, Dorothy Day, qui a quand même cofondé un mouvement qui s'appelle les Catholic Workers, même s'il y avait aussi des chrétiens d'autres confessions, elle tenait beaucoup à cet ancrage catholique qui était un ancrage de conversion, qui n'était pas hérité de sa famille. Il y a des moments où elle s'est retrouvée en confrontation avec des évêques aux États-Unis sur la question, par exemple, du désarmement atomique ou de la révolution cubaine. Et voilà, je pense que ça, il ne faut pas tirer de conclusion définitive de tout ça, mais ça nous dit que peu importe notre rapport personnel à l'institution, à l'autorité, etc., il y a un moment quand on veut être porter pleinement ce rôle de signe de contradiction donc, auquel nous apporte, auquel nous invite l'Évangile. Il y a un moment où forcément on entre en conflit, en fait, que ce soit dans l'Église ou dans la société, avec les puissants, etc. Et voilà, et comme de fait, historiquement, les institutions ecclésiales, pas que l'Église catholique, ont eu beaucoup de moments de connivence avec les puissants, les puissances temporelles. On en parle en introduction, le franquisme, on pourrait parler du protestantisme allemand avec les princes contre le mouvement des paysans révoltés. Je me suis perdu dans la phrase. Oui, voilà, en fait, comme il y a cette connivence historique, cette connivence, elle reste assez, assez implantée. Il y a pour plein de raisons cette méfiance vis-à-vis de ceux qui veulent bousculer le statu quo.
Peut-être je vais poser une dernière question et puis après on prendra vos questions à vous. Mais tout à l'heure, Mathias, tu citais Dorothée Zoleux qui dit « J'ai peur que le Christ soit mort pour rien ». Est-ce que finalement, ils n'étaient pas un peu déprimés aussi, ces chrétiens, tout indisciplinés qu'ils soient ? Ou est-ce que, est-ce que vous avez trouvé dans ces portraits aussi une forme de joie en dépit de... le constat de l'injustice, la solitude de cette position qui, on l'a bien vu, est assez écartelante. Est-ce qu'il y avait quand même une ressource un peu intérieure, j'imagine, pour vivre aussi dans la joie ?
Ouais, je crois qu'en effet, ils ont quand même tous, toutes et toutes ont été marqués par une forme de déception. Je pense par exemple à Alioune Diop. Donc Alioune Diop, c'est un intellectuel sénégalais du XXe siècle qui voilà, était catholique et a créé la revue Présence africaine, et puis voilà, faisait partie d'un milieu qui défendait la décolonisation. Ça a été un grand acteur des indépendances, un grand ami aussi de Léopold Sédar Senghor. Et Alioune Diop, lui, il était très chagriné de voir que l'Église catholique n'arrivait pas à embrasser le mouvement des indépendances et de la décolonisation de manière générale, et que ça, c'est plutôt du côté des révolutionnaires, des mouvements peut-être plutôt d'inspiration marxiste, que voilà, le succès, que ce soit politique ou idéologique, venait, quoi. Donc il était très déçu de l'attitude que l'Église avait pu avoir à l'égard des mouvements décoloniaux. Et en même temps, et je crois que c'est le cas dans plusieurs figures, quoi, de se dire, mais comment se fait-il que l'Église, malgré toute la subversion du message évangélique, n'est pas capable de faire cause commune avec tous les mouvements qui fleurissent pour défendre la liberté? Donc ça, je crois qu'en effet, ils ont traversé des moments de grand doute et de déception. Maintenant, c'est ce qu'on écrit dans l'introduction, justement, à l'heure actuelle, ils étaient animés quand même d'une foi et d'une espérance, et qui peut être signe pour la réalité contemporaine, puisque à l'heure actuelle, bon, quand on essaie de se battre pour que la société soit par exemple plus écologique ou plus juste, on sait tout à fait que ça devient vite difficile. Il y a peu d'espoir de changement. Si on prend l'écologie, voilà, évidemment on a tous envie que ça change. Maintenant on sait très bien que la situation est catastrophique. Et là justement, la foi chrétienne donne des ressorts d'espérance, puisqu'on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui perce à travers cela, dans certains gestes, dans certaines attitudes. Et finalement, pour Ivan Illich, le sens de l'évangile, c'était la surprise. C'est-à-dire que quelque chose advient qui n'était pas prévu. Et Charles Plisnier, qui était un poète belge dont on parle aussi dans l'ouvrage, il disait, bon, finalement, le sentiment religieux, c'est systématiquement un sentiment qui est tourné vers quelque chose qui n'existe pas. Et donc du coup, c'est une négation de ce qui est, de la logique des choses, et on doit aller vers l'altérité. Donc il y a une espèce d'espérance un peu folle, de l'inattendu, et Ivan Illich, lui, il disait beaucoup que quand on lit l'évangile, finalement la bonne réaction, c'est de rire. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense que la raison pour laquelle il disait ça, c'est parce que oui, c'est un peu une réaction inattendue, quelque chose qui advient et qui rend peut-être l'existence un peu moins sérieuse. On croit peut-être un peu moins aux rationalités un peu figées du monde, et soudain on espère quelque chose qui va générer une irruption. Et cette foi dans ce qui peut toujours arriver malgré tout, je pense que c'est quelque chose d'assez évangélique, et donc du coup qui, malgré toutes les déceptions qu'on peut avoir en pratique, et des déceptions qu'on peut avoir aussi à l'égard de l'Église catholique, par exemple, malgré toutes ces déceptions, ben, l'espoir demeure grâce à la foi.
Et à l'humour.
Et à l'humour.
D'ailleurs, Desmond Tutu, qui est une des figures, et quelqu'un qui riait beaucoup, et qui a été une des figures les plus importantes de la lutte contre l'apartheid, donc qui a vécu des choses très sombres, qui a aussi exploré des thèmes théologiques très sombres, par exemple la souffrance de l'homme noir, en l'inscrivant dans le mystère du mal. Et malgré ça, en fait, il était toujours tourné vers une croyance très forte que Dieu voulait, voulait sa famille, ses enfants réconciliés, et qu'il n'avait pas voulu toutes ces divisions de classe, de caste, de race, etc. Et donc, il a vraiment toujours gardé cette espérance très ancrée, et cette croyance qu'il pouvait y avoir une société post-apartheid multiracial réconcilié. Et en fait, c'est ce qui s'est produit, et ça fait peut-être partie de ces renversements de l'histoire, ces surprises évangéliques, comme disait Jean-Baptiste, qui sont aussi portées par des figures comme
ça. Qui peuvent avoir des victoires. Donc.
Voilà.
Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour la première question? Oui.
Je vais être court. Alors, je vous félicite pour ce travail qui est, ma foi, un sacré ouvrage, hein, à Paris, si on peut dire.
Oui, ils étaient trois.
C'est une bonne surprise. Alors, la couverture fait un peu Black Panther, avec le point où ça fait penser au mouvement des revendicatifs des années 60, ce qui est assez fort comme couverture. Maintenant, sur le titre. Je vais être précis, chrétien contestataire, puisqu'on a abordé le sujet, est-ce que ça n'est pas un pléonasme? Au sens où, pour moi, le Christ était un révolutionnaire. Et si on regarde simplement les 10 commandements, si on devait les appliquer aujourd'hui dans la loi française, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de dirigeants élus en France. Je parlerais simplement de « tu ne tueras point ». En ce moment, on est en train de voter des milliards pour aller faire la guerre à gauche à droite, hein, de vendre des armes, troisième puissance mondiale. « Tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On est en train de déshabiller tous les chômeurs, les précaires, etc. Chasser, tu aimeras ton prochain comme toi-même, chasser les immigrés et j'en passe. Tu ne porteras pas faux témoignages. Je ne parle pas de toutes les affaires de corruption, je ne citerai pas des noms, l'ancien président de la République, vous connaissez bien, chrétien, qui ont fait des faux témoignages par milliards et par millions, etc. etc. Alors, je n'ai pas tous les 10 commandements en tête. Simplement, si on prend les 10 commandements, pour moi, c'est révolutionnaire. Donc, quelque part, ce sont des chrétiens authentiques par rapport aux chrétiens dévoyés, si on veut dire, ou qui n'appliquent pas le christianisme. Et ce que je regrette un petit peu dans l'Église, quelles que soient les différentes traditions, chrétiennes orthodoxes, disons les protestants, surtout en France, et les catholiques, mais les orthodoxes éthiopiens aussi, il y a même les rastafariens, mais c'est que, finalement, ils ne prennent pas position politiquement, y compris le témoin de Jéhovah, tout ça, ils ne veulent pas prendre position politiquement en disant qu'on travaille pour l'au-delà, et qu'ici-bas, chacun fait ce qu'il veut. Il faut ramener un petit peu le choix individuel. Or, si on applique à la lettre, tout simplement, les 10 commandements, je répète encore une fois, il y aura peut-être beaucoup à redire dans la politique actuelle. Donc, il y a d'autres livres de ce titre à écrire, peut-être faire une synthèse un petit peu de toutes ces idées-là pour écrire un livre, cette fois-ci, sous votre plume, avec vos propres idées. J'étais un petit peu déçu que ce soit uniquement des citations. Donc je vous invite à inviter à faire une synthèse.
C'est des portraits, donc c'est leur regard sur ces personnes.
Et à sortir un peu comme le jus d'orange, enfin le jus d'orange concentré, sortir l'essence même faire une synthèse un peu de ce qu'ils ont apporté en l'actualisant par rapport au monde moderne. Merci.
Donc est-ce que c'est pléonasme?
Ouais, alors, bah, tu prêches un convaincu, mais c'est vrai que ça aurait été bizarre d'écrire portrait de chrétien. Voilà. Ça aurait été. Évidemment, on partage plein d'intuitions, donc je vais pas revenir là-dessus. Et tu pointes quelque chose qui nous semble très vrai. On en parle dans l'introduction. Il y a une peur de générer du conflit chez les chrétiens parce qu'on est tellement attaché à l'unité qui parfois, en fait. À travers cette volonté-là, on met sous le tapis un certain nombre d'enjeux, notamment des questions sociales. Et je pense qu'il y a cette crainte que lorsque l'on parle, de, par exemple, des classes sociales dans la société, c'est comme si, en nommant les classes, on allait les créer. Comme si elles n'existaient pas, et tout d'un coup, comme je dis qu'il y a des classes sociales avec des intérêts antagonistes, et bien tout d'un coup, mon verbe est créateur et j'ai créé les classes sociales, mince, il y a de la division. Alors que... Ici, enfin, je pense que toutes ces figures se sont confrontées aux antagonismes de classe. C'est que ces antagonismes de classe leur ont pété à la gueule, pour le dire de manière très crue. Et donc, en fait, je pense que ça, il est important qu'on essaie de travailler dans les communautés chrétiennes, c'est cette distinction entre la préservation de l'ordre établi, qui a toujours peur de créer l'instabilité, et la notion de paix qui évidemment est très proche de la notion de justice. Et donc tous ces chrétiens n'ont pas voulu fomenter la division par amour de la division. Ces chrétiens et ces chrétiennes se sont rendus compte de divisions qui leur semblaient contraires à l'évangile, et c'est pour ceci, c'est pour combattre ces divisions, pour une humanité réellement unifiée qu'elles se sont engagées. Et après, je note ton invitation à écrire nos propres idées. En fait, pour être tout à fait franc, c'est parce que, à titre personnel, je ne sais pas où en sont mes camarades, mais je n'en suis pas encore là dans mon processus réflexif, tout simplement. Il y a des ouvrages beaucoup plus aboutis, enfin en tout cas plus unifiés sur le plan théorique, je pense à La Communion qui vient, que vous connaissez sûrement. Et moi, à titre personnel, je n'ai pas encore une doctrine à porter, et donc je trouvais ça plus confortable de me cacher peut-être en effet derrière des figures, mais tout simplement parce que c'est là où j'en suis dans mon parcours. Et voilà. Mais dans 10 ans, peut-être qu'on revient et on fait
notre conférence.
Ouais, merci beaucoup. Peut-être une petite question, mais peut-être un peu personnelle, mais en même temps, je me dis, on est des auteurs, tant qu'à faire. Mathias, tu disais juste qu'on se sentait moins seul après avoir étudié toutes ces figures-là, etc. Est-ce que chacun, peut-être, vous pourriez partager une chose de, enfin, dans vos recherches un peu, mais est-ce qu'il y a eu un truc qui a eu un effet transformant un peu dans vos vies de chrétiens, un peu de manière quotidienne? Est-ce que c'est dans la vie spirituelle? Est-ce que c'est dans des actions? Est-ce que c'est dans une espérance où vous vous sentez conforté? Est-ce que, et peut-être qu'est-ce que vous attendez que ce livre produise sur les chrétiennes et chrétiens lambda que nous sommes? Alors, en quoi ça peut être aussi fermant un peu pastoral, ou est-ce que ça peut nourrir quelque chose? Enfin, voilà, donc un petit partage, et qu'est-ce que ça peut...
Alors, moi, j'ai du coup, j'ai écrit sur les figures de Dorothy Day, de Simone Tutu, le père Gustavo Gutiérrez et Simone Veil. Et en fait, je ne les ai pas totalement découvertes, à part Desmond Tutu, que je connaissais vraiment sur Passe, je ne les ai pas tout à fait découvertes au moment de la rédaction, même si en fait, enfin, il y a aussi des choses qu'on pense connaître et qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on croyait. Mais en fait, en amont, ces figures-là m'ont vraiment beaucoup transformé. Bah, Dorothy Day, en fait, j'ai découvertes ici. Et j'ai découvert dans un moment où moi je me suis converti en 2000, je sais plus, super. Ça m'a marqué visiblement. À l'Assomption 2020. Et en fait, ma première année de conversion, elle était très solitaire. Donc quand on dit voilà, ces figures, elles permettent aussi de ne plus nous sentir seuls, c'est vraiment quelque chose qui me parle aussi dans mon parcours personnel. Et donc voilà, j'ai vécu une première année de converti vraiment solo, où je parlais à personne à la sortie de la messe, parce que bah, l'église catholique n'est pas extrêmement douée pour l'accueil des nouveaux arrivants, de mon point de vue, enfin, c'est pas pareil partout. Mais... Et donc voilà, et en fait, en découvrant tout ce petit milieu, le Dorothy, voilà, tous les collectifs qui existent autour, et puis ensuite en rencontrant JB et Mathias, etc. Ça m'a aussi, je pense, permis de... en fait, on va dire que ça m'a ouvert sur la possibilité d'essayer de vivre l'évangile quotidiennement et de manière collective, communautaire, et pas de manière très individuelle et solitaire et délimitée au dimanche, quoi, en gros. Donc du coup, ça répond pas trop à ta question.
On ouais. voulait que tu racontes ta vie, donc...
Ouais, moi, à titre personnel, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai écrit ce livre, c'était surtout la figure d'Emmanuel Mounier. Donc c'est Timothée qui nous l'avait recommandé comme figure quand on recherchait, et j'ai écrit le chapitre dessus. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que autant j'ai plutôt commencé à écrire ce livre dans l'idée que j'allais montrer qu'en réalité, la foi chrétienne devait aller plus vers la critique et peut-être plus vers des auteurs anarchistes ou communistes pour intégrer la dimension systémique, etc. Autant en lisant typiquement Emmanuel Mounier, donc qui est une des grandes figures du personnalisme chrétien du XXe siècle, je me suis aussi beaucoup rappelé pourquoi j'étais chrétien. C'est-à-dire qu'Emmanuel Mounier, il a beaucoup dialogué avec les anarchistes, avec les marxistes, mais il a vu aussi beaucoup d'éléments qui étaient pernicieux dans ces traditions, particulièrement chez Marx, un espèce de matérialisme agressif qui voyait un espèce de sens productiviste de l'histoire et qui annihilait un peu la liberté humaine, d'autres éléments. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, par exemple, chez Mounier, c'est qu'il arrive à avoir une critique structurelle de la société, mais il n'éclipse pas la question de la responsabilité individuelle. Et ce n'est pas la responsabilité individuelle au sens genre le changement commence par toi dans le monde ou quoi. C'est plutôt la responsabilité individuelle de se dire finalement, la vie chrétienne, ça n'est pas qu'une vie qui doit être efficace au sens de agir au bon niveau pour changer la société. C'est aussi une expérience de vie, et je crois que le personnalisme de Mounier est très fort là-dedans. Et dans cette expérience, il y a le service. Et c'est pas parce que le chrétien n'est pas au service des autres parce que c'est efficace, parce que ça transforme la société. C'est parce que la condition humaine dans laquelle Dieu nous place, en tout cas c'est pour ça, c'est ce que je lis chez Mounier, est une condition qui ne fleurit que si elle est mise au service. Et ça, je trouve que c'est des éléments que la tradition critique ne dit pas. Il y a d'autres éléments, hein. Je crois que par exemple la tradition critique a tendance à vouloir transformer le monde de manière un peu très rationnelle et de manière très planifiée, quoi. Il faut vraiment reconstruire le monde différemment, etc. Là où dans la vie chrétienne telle que Mounier l'a décrit, il y a quand même une forme d'abandon, de confiance en Dieu, qui fait que tout n'est pas manipulable, on ne peut pas tout reconfigurer du jour au lendemain, etc. Bref, pour moi en tout cas, autant le pas vers la critique du capitalisme a été une grande bouffée d'air, autant dans la prose, et notamment de Emmanuel Mounier, on retrouve un peu les raisons et les premiers amours qui font qu'on est quand même très très attaché à la perspective plus chrétienne, peut-être un peu moins militante, enfin si, qui est tout aussi militante, mais sur un plan vraiment différent.
Non, je ne suis pas sûr d'avoir eu une épiphanie quelconque à partager avec vous, mais je me retrouve... Enfin, c'est marrant parce qu'on n'a pas, en fait... On n'a pas encore fait un débrief de... c'est cool de voir qu'on a une expérience malgré tout commune. Non, c'est vrai que nos figures en fait, refusent cette dichotomie entre l'action au sens politique et structurel et la vie ancrée, une vraie conversion personnelle. Et ça, je pense que c'est peut-être le message de ces chrétiens contestataires pour la gauche, c'est de cesser peut-être cette dichotomie qui n'a pas vraiment lieu d'être. Je pense que c'est évidemment très fort dans la question écologique où on a tendance à opposer la conversion personnelle, les petits gestes, le zéro déchet, en fait très centré sur soi et sa sphère privée, à la grande action révolutionnaire pour les lendemains qui chantent vers l'écosocialisme. Et je pense ici qu'il y a vraiment cette articulation entre les deux qui, moi, me parle très fort, notamment parce que je suis quelqu'un de pas hyper incarné dans mes luttes, mais tu me connais très bien, donc voilà, je t'apprends rien, mais... Enfin, je suis très fort sur le plan des idées, j'adore penser les grandes questions, mais je suis pas, en tout cas, je pas assez à mon goût, en tout cas pas assez suite à la lecture de ces personnes incarnées, parce que justement, j'avais tendance à me moquer de cette incarnation que je voyais comme une forme de libéralisme un peu bourgeois centré sur soi. Et là, je vois qu'en fait, dans ces figures, il y a une volonté d'articuler les deux. Pas forcément par efficacité, comme tu le disais, mais parce qu'il y a vraiment cette conviction que la conversion personnelle façonne des luttes politiques différentes. Et qu'on n'agit pas en politique de la même manière si on est ancré dans la foi chrétienne, dans la prière, dans l'adoration, dans toutes les pratiques chrétiennes. Et c'est très fort chez Dorothée Zolle, qui parle de lutte et contemplation. Elle reprend le mot de frère Roger de Thésée. Elle explique que si l'unique but c'est d'atteindre le grand soir, et ben en fait on va reproduire des nouvelles oppressions, et que la seule manière de ne pas le faire c'est à travers la contemplation. C'est très fort aussi chez Vida Scudder, une autrice socialiste américaine, qui explique que si on essaye de faire adhérer la population à l'idéal socialiste sans qu'il y ait une conversion du cœur, en fait forcément ça va donner un régime coercitif et totalitaire. Elle écrit ça en 1912, donc c'est assez prémonitoire par rapport à l'expérience soviétique. Et donc, elle explique que la révolution spirituelle doit en fait façonner la révolution sociale. Et donc, bref, voilà, moi, c'est cette dichotomie que j'avais tendance à m'appliquer, peut-être par facilité aussi, comme ça me donnait une bonne raison de ne pas faire grand-chose de très incarné. Et là, je suis un peu remis face à mes contradictions, parce qu'en fait, ces figures m'ont démontré qu'il ne fallait pas choisir, en fait.
Et ta deuxième question, c'était par rapport à ce que ça pourrait inspirer chez les chrétiens de bonne volonté, c'est ça ?
Moi, je suis déjà ravi, hein, mais je vais aussi
merci. Bah oui. Est-ce qu'on prend une autre question ou...
Oui. Oui, allez-y. J'aimerais savoir le rapport à l'institution, à l'Église, de vos 12 personnages. Est-ce qu'il y en a qui ont quitté l'Église ? Est-ce qu'ils sont tous restés dedans ? Est-ce qu'ils se sont demandé s'ils pouvaient agir en restant au sein de l'Église ou pas ? Enfin, toutes ces questions-là, quoi.
Il y a plein de positionnements différents, et notamment parce qu'il y a à la fois des catholiques et des protestants, donc c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Mais je pense par exemple à Simone Veil, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui elle venait d'une famille plutôt juive agnostique, enfin pas pratiquante en tout cas, et donc qui a embrassé le mouvement ouvrier dans les années dans les années 30, une expérience en usine, etc. Enfin, je pense que beaucoup de gens connaissent ça. Et dans les années 35-38, elle vit plusieurs expériences mystiques qui l'ancre profondément dans la foi chrétienne, ce qui va changer aussi la nature de ses écrits, etc., les thèmes qu'elle va traiter, mais qui ne change pas fondamentalement ses idées. C'est quelque chose d'assez beau aussi dans certaines figures, c'est pareil chez Dorothy Day, par exemple. Et donc sur son rapport à l'institution, elle est vraiment à part, parce que en fait elle va toujours refuser le baptême et elle va être en correspondance avec des catholiques, notamment le prêtre dominicain Joseph Marie Perrin ou la jeunesse ouvrière chrétienne pendant la résistance. Et en fait voilà, elle refuse toujours le baptême pour plusieurs raisons. Alors il y a une lettre à Georges Bernanos où elle écrit qu'elle se convertirait si on autorisait l'entrée dans les églises qu'en dessous d'un certain niveau de revenu, parce que pour elle ce serait plus conforme à l'évangile. Bon, on n'est pas obligé de partager ça. On dit aussi dans notre introduction que la beauté du christianisme, c'est d'avoir un salut pour les bourgeois aussi. Enfin, on ne le dit pas comme ça, mais en gros que le enfin bon bref, c'est pas moi qui ai écrit cette partie, donc j'ai mal à parler. Mais sur Simone Veil, donc il y a ça, et puis elle avait aussi un rapport aux autres spiritualités, aux spiritualités pré-chrétiennes, dans lesquelles elle retrouvait une vérité et qui n'était pas reconnue par l'Église, qui était plutôt même condamnée par l'Église. Voilà, c'est un exemple comme ça, mais il y a vraiment, enfin, chaque figure a un rapport très, très particulier à l'institution. J'en ai pas en tête qui aurait quitté. Bah, il y a Ivanovitch qui a un peu quitté le sacerdoce, mais contre son gré, je pense que c'était pas sa volonté qu'il était.
Mais là, qui ont quitté l'église dans les 12.
Ouais, bah justement, Ivan Illich, donc qui est un espèce de prêtre anarchiste du 20e siècle, toujours, lui, il s'est enguirlandé avec l'église, puisque l'église a commencé à l'accuser d'avoir des propos un peu subversifs pour l'époque, donc c'était dans les années 60. Et lui, il a décidé de... En fait, il estimait que la position de prêtre était une position qui était une position très privilégiée. C'est-à-dire qu'il estimait que le fait d'être prêtre, eh ben, ça lui donnait... Ben, par exemple, dans tous les pays du monde, il avait accès à des logements, il avait accès à un statut, il était accueilli, etc. Et il a décidé, à un moment donné, de renoncer à ses privilèges. Il estimait que... Il n'aimait pas de manière générale le fait que l'Église soit une institution et qu'elle tende à formater les individus, notamment les prêtres, dans un modèle unilatéral. Et donc, du coup, pour aussi sans doute vivre de manière cohérente la manière dont lui... Enfin, Illich était très habité par la cohérence. Par exemple, il critiquait beaucoup l'hôpital et la vision de la santé qu'induit l'hôpital. À la fin de sa vie, il y a eu un espèce de kyste qui a grandi sur sa joue. Il a décidé de ne pas se le faire enlever, donc ça a grossi. Et voilà, on peut critiquer, mais c'était quelqu'un qui cherchait une forme de cohérence. Et donc, ben, par exemple, au moment où il a senti que son rôle de prêtre était trop institutionnalisé, ben, pour être en cohérence avec sa critique des institutions, il a renoncé à ses formes de privilèges. Maintenant, il a jamais vraiment été défroqué, il a jamais été vraiment réduit à l'état laïque, donc c'est une situation assez particulière.
Parce qu'il me semble que dans les prêtres d'Amérique latine révolutionnaires, il y en a qui ont été virés carrément.
Oh, ouais. Mais c'est pas le cas de Guterres.
Alors voilà, celui qu'on a choisi, le père Gustavo Gutiérrez, donc qui est considéré un peu comme le père fondateur de la théologie de la libération, lui, bah, il est toujours vivant et il est toujours prêtre, toujours dans l'église, etc. Mais effectivement, il y a quelques grandes figures de la théologie de la libération qui auraient tout à fait eu leur place dans le livre, qui ont été visées par des sanctions du Vatican.
Si je pose cette question, c'est que pour moi ça me paraît évident que le chrétien contestataire, il est dans cette question.
Bien sûr.
Il n'a pas forcément la réponse, mais dans cette question de son positionnement face à l'institution à l'Église.
Bien sûr,
je pense pour que moi c'est une évidence.
Non, mais bien sûr, je pense que c'est des questions.
Donc je voulais savoir si vous l'aviez rencontré, cette question-là.
Bah, je pense que c'est des questions qui nous habitent pas mal, mais après. Moi, j'ai écrit un bouquin sur la théologie de la libération avant, qui s'appelle Les Moissonneurs. Et justement, je parlais de tout cet affrontement de la théologie de la libération avec le Vatican. Et cette tension, effectivement, qu'il peut y avoir sur rester ou partir, etc. Donc c'était pas, je pense que c'était pas tellement notre sujet premier parce que c'est pas un, c'est, en fait c'est pas un livre qui est tourné, enfin selon moi qui est, c'est pas un livre qui est tourné avant tout vers les enjeux ecclésiaux. Enfin, c'est vraiment le questionnement central, c'est vraiment cette articulation entre foi et justice. Après il y a des choses, voilà, il y a des, évidemment des questionnements ecclésiaux qui en découlent, mais je pense que c'était pas le fond de ce qu'on cherchait à aborder en tout cas.
Il y avait une question là-bas, ouais. Et puis ensuite.
Ouais, c'était un peu similaire, du coup je vais reformuler pour savoir comment est-ce que ces personnages, enfin ces figures, aujourd'hui sont. C'est quoi la mémoire dans l'Église qui reste après ces personnes-là est-ce qu'elles sont considérées comme des figures intéressantes qui ont permis de faire grandir la réflexion sur certains enjeux ou est-ce qu'elles ont été un peu marginalisées? Peut-être une deuxième question méthodologique, comment vous y êtes pris? Est-ce que vous avez pu parler avec certaines personnes qui ont connu ces personnes, ces figures, ou même Gustavo Gutiérrez, est-ce que vous l'avez appelé sur le nom?
En tout cas, pour la première question, en tout cas en Belgique, de ce que moi je connais des milieux chrétiens belges, à la fois c'est une tradition qui n'est pas connue, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose dont j'ai appris l'existence dans mon éducation chrétienne. Moi, je suis issu d'une famille catholique, j'ai fait tout mon catéchisme, je vais à la messe tous les dimanches depuis que je suis tout petit. J'ai participé à des tas de camps de jeunes et on m'a parlé de figures. Par exemple, on m'a parlé beaucoup de l'abbé Pierre, on m'a parlé beaucoup de Mère Teresa. Enfin, il y avait des bandes dessinées sur ce type de figure chez moi. Ce type de profil, donc plutôt chrétien critique ou chrétien lié avec un pied vraiment dans l'anticapitalisme, n'a pas émergé. C'est plutôt des figures que j'ai rencontrées à l'université dans le cadre de mes cours universitaires. En Belgique, en tout cas, c'est très fort comme ça, quoi. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle Mathias, moi, Marin, ici présent, et d'autres amis, on a créé un collectif qui s'appelle le Bâtir le bien commun, c'est parce qu'on s'est rendu compte que cette réalité de l'Église, cette réalité d'idées n'existait pas, n'était pas communiquée au sein des milieux chrétiens jeunes que nous, on fréquentait. Et donc, bon, il fallait la rendre visible, et puis après, on verrait bien ce qui arriverait. Par contre, au moment où on a fait ça, avec Bâtir le bien commun, et encore avec le livre, eh ben, il y a des gens qui viennent chez nous et qui nous disent hein, « mais moi je connais ça ». Par exemple, des personnes qui ont fait partie des jeunesses ouvrières chrétiennes quand ils étaient jeunes et qui viennent nous dire « mais on en parlait quand j'étais… » Ou alors la génération de nos parents qui disent hein, « mais oui, Emmanuel Mounier, je disais ça quand j'étais petit, etc. » mon père qui m'a parlé de la théologie de la libération. Donc, c'est quelque chose qui existe dans le cœur et dans les cervelles, mais qui n'est pas vraiment communiqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le fil de la tradition a été rompu à un moment donné, quelque chose qui n'a pas été transmis, je ne sais pas, on peut vraiment spéculer. Mais de manière souterraine, c'est encore là, encore maintenant, par rapport au père Gustavo Gutiérrez, on a présenté le livre hier à Bruxelles, et il y a un prêtre qui est venu et qui nous a envoyé un mail après en disant « mais Gutiérrez, c'est toute ma jeunesse, etc. » Donc c'est à la fois génial parce que ça existe, mais on se demande « mais pourquoi vous n'en avez pas parlé plus tôt ?» Voilà, peut-être qu'on n'écoutait pas assez. Au niveau méthodologique, on a fait ça, en tout cas, c'est pas un travail de recherche. C'est vraiment un travail de synthèse, on a pris les textes qui étaient publiés, les biographies officielles, etc. Et voilà, moi en tout cas, je l'ai plutôt abordé comme ça. C'est rendre visible quelque chose, mais ça n'est pas un travail de recherche universitaire. Et donc sur la méthodologie, c'est beaucoup du travail de vulgarisation d'œuvres déjà canonisées dans des publications.
Oui, je pense que c'est tout à fait juste ce que tu dis. En fait, je crois que moi, comme on a pensé le bouquin, c'est de se dire, en fait, les gens vont avoir la flemme de lire 4-5 livres déjà existants sur une personne. On va synthétiser ça en 15 pages, mais on n'a pas la prétention de renouveler la manière dont ces personnalités ont été abordées jusqu'ici dans les milieux académiques. C'est pas ça le sujet. Moi, je rêve d'une série des chercheurs de Dieu, vous voyez, les BD, mais avec des figures comme ça, parce que moi, j'étais biberonné aux chercheurs de Dieu. Chercheuse de Dieu, et c'est vrai que c'était des figures un peu plus consensuelles, ou alors des figures qu'on avait consensualisées. Mm-hmm. Et je pense que ça, on s'en est quand même rendu compte, enfin, tu l'expliques bien pour Emmanuel Mounier. Moi, quand tu m'as dit Emmanuel Mounier, j'étais, gars, on avait dit un truc de gauche, pas un truc centriste. Je crois que t'as pas compris. Et en fait, quand on exhume, on se rend compte qu'on a un petit peu amolli ces figures, donc on voilà, il y a un peu de ça, je pense, qui a été un peu révélé. Et après, pour la méthode, On n'a pas rencontré Gustavo Gutiérrez, qui je pense est un petit peu...
Non, mais en fait, je l'avais contacté justement pour les moissonneurs. Enfin, j'avais contacté son éditrice. Et elle m'avait dit qu'il était trop âgé. En fait, il a eu un petit documentaire du Jour du Seigneur l'an dernier sur lui. Et en fait, il parle pas, quoi. Il n'est pas du tout en capacité de répondre à des interviews. Voilà. Mais effectivement, on n'était pas... C'était pas du tout un travail d'enquête. En fait, c'est déjà assez colossal comme travail d'arriver à recueillir voilà, toutes ces bibliographies et d'essayer de donner un peu forme à tout ça avec toujours autour de cet axe principal de l'articulation foi et justice. Et voilà, en essayant aussi d'apporter notre regard un peu personnel dessus. Mais effectivement, on n'avait pas la prétention d'apporter du savoir nouveau. Et juste sur la question de la comment ces figures-là sont perçues dans les églises, Paris c'est très très différent, mais sur par exemple le père Gustavo Gutiérrez, il a été reçu par le pape François dans les semaines qui ont suivi son élection, et ce qui marquait aussi une forme de réconciliation, de miséricorde vis-à-vis de la théologie de la libération, sachant que le pape François en est en partie issu, il vient de la théologie du peuple, qui est une branche de la théologie de la libération. Et par exemple, Dorothy Day a été déclarée servante de Dieu par le pape Jean-Paul II. Et il y a un procès en béatification qui est en cours. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on pose un peu au début du chapitre, de est-ce que ces processus de béatification-canonisation n'ont pas un risque de lisser la radicalité de ces figures-là. Question sans réponse.
Et Dorothy Day, j'ajoute juste que bientôt, dans l'église qui nous jouxte ici, Notre-Dame de la Croix, il y aura une petite chapelle latérale qui va être dédiée à Dorothy Day. Donc c'est un clin d'œil au café, mais donc nous, on est très contents de ça et on va essayer de d'orner un peu cette chapelle, mais du coup, on pourra, ce sera un lieu de prière et de recueillement autour de cette figure dans une église parisienne, bien comme il faut. Il y avait une question par là-bas.
Oui, la conclusion de Timothée fait un peu la transition. C'est que dans la conférence, on a beaucoup parlé de la contestation au sein de l'Église, entre l'Église, pour la réforme de l'Église, mais j'ai l'impression que votre ouvrage a une vocation bien plus large que ça. Donc c'est peut-être le temps d'en parler autour d'exemples un peu concrets, typiquement un peu comme Dieu de Grand. Est-ce que vous avez un exemple de lutte où l'une de vos figures s'est associée parfois avec le soutien de l'Église, à d'autres associations, à d'autres collectifs, ou un conflit qui s'est avéré fécond enfin, quelque chose où on l'attendrait. On n'attendrait pas des chrétiens, ou alors où l'action des chrétiens est méconnue.
Donc vraiment des choses où ils l'ont fait en tant que chrétiens, avec d'autres chrétiens.
Exactement.
Parce que de manière isolée, ils sont tous engagés dans l'état de lutte. C'est pour ça qu'on les a sélectionnés. Maintenant, moi, je reviens du coup à Mouillé. Via Mouillé, j'ai découvert l'existence de tout le mouvement de la revue Esprit, enfin le mouvement Esprit. Et donc ça grandit dans les années 30. Et c'est donc beaucoup de chrétiens, pas que, mais qui se rassemblent ensemble, qui sont à la fois critiques du capitalisme, à la fois critiques du fascisme, et qui sont très engagés dans la bataille des idées, et qui là prennent position de manière assez forte. Et puis beaucoup des personnes qui se sont investies dans le mouvement Esprit ont rejoint la résistance. Emmanuel Mounier a eu affaire avec la résistance, Jean-Marie Domenac, qui a pris la succession de Mounier, s'est engagé dans la résistance en tant que chrétien avec d'autres chrétiens. Et donc ça pour moi c'est un exemple assez concret d'une aventure chrétienne avec une forte identité chrétienne, disons, qui se sont soutenus. Et c'est un mouvement qui est, quand on creuse après les relations que ces personnes ont tissées entre elles, le fait qu'ils ont Mounier, il s'est aussi installé avec ses amis dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un habitat groupé, ils ont vécu une fraternité ensemble. Donc oui, c'était là pour le coup, c'était vraiment un mouvement de chrétiens, à la fois intello, mais très incarné dans les luttes politiques du temps, notamment les questions du fascisme, les questions du totalitarisme, la résistance, la guerre, et c'était assez fécond. Enfin, en tout cas, moi je suis assez admiratif de ce qui s'est passé.
Et peut-être en termes d'exemple de moments où ces figures-là ont pu enfin, finalement, ce que tu demandes, c'est s'il y a eu des contestations possibles avec le soutien de certains soutiens institutionnels, enfin de.
Mais ça sur des sujets qu'on méconnaîtrait ou qui gagneraient de connu.
Ben, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. C'est le père Gustavo Gutiérrez. En fait, il a forgé sa théologie de la libération en revenant du Concile Vatican II où il avait été emmené par son évêque. Et il avait une espèce de frustration vis-à-vis du fait que la question de la pauvreté ait un peu été reléguée au second plan par rapport à tous les enjeux liturgiques, ecclésiologiques, etc. Et donc, en fait, l'endroit où il va parler pour la première fois de théologie de la libération, c'est à Medellín en 68. En fait, dans une réunion de la conférence épiscopale latino-américaine, donc c'est vraiment tous les évêques sont réunis là. Il y a le pape Paul VI qui ouvre la conférence, c'est la première fois qu'il se rend en Amérique latine. Et donc c'est là qu'il va parler pour la première fois de théologie de la libération. Et de fait, il y a eu beaucoup d'évêques en Amérique latine qui se sont engagés dans ce mouvement-là, y compris des gens qui étaient plutôt pas sur ces. Enfin, qui étaient plutôt conservateurs à la base, quoi. Un autre exemple, c'est Desmond Tutu. En fait, avant de devenir le premier archevêque noir du Cap. Il a été nommé président de la. Alors, c'est quoi le nom ? Ça s'appelle SAC ? Le Conseil des Églises d'Afrique du Sud, qui regroupait en gros toutes les églises chrétiennes d'Afrique du Sud, sauf les églises réformées africaneurs, donc blanches, qui étaient plutôt un soutien de l'apartheid, en tout cas en majorité. Et donc, c'est vraiment, c'est vraiment à la tête de cette institution, de ce regroupement d'églises. Qu'il a pu visibiliser à l'international le combat contre l'apartheid, appeler au boycott économique du régime, etc. Donc voilà, il y a des moments effectivement où il peut y avoir une action institutionnelle, enfin voilà, en tout cas au sein d'une certaine institution, mais je pense qu'il y a plus d'exemples de moments où ça a un peu frotté avec les institutions.
Oui.
Ma question est bête, enfin en tout cas elle est simple. Est-ce que vous pourriez rapidement présenter les 12 figures de votre ouvrage, parce qu'il y a des noms qu'on connaît, ou des personnes qu'on connaît vraiment, des noms qu'on a déjà entendus, et il y en a qu'on ne connaît pas du tout. Au moins expliquer peut-être qui ils sont, dans quel contexte ils ont vécu, et pourquoi pas nous donner envie d'acheter le livre après.
Pourquoi pas ?
Parce que tu n'es pas encore convaincu. Mais... Alors en début de livre, on a. C'est écrit les 12 ici, et il y a exactement quelques lignes sur chacune d'entre elles pour faire cet exercice.
Mais celle dont on n'a pas trop parlé ce soir.
Ouais, j'essaie de voir.
Charles
Pisnier. Oui, donc il y a Charles Pisnier par exemple, donc c'est un écrivain et poète belge qui a été très tôt investi dans le Parti communiste, dans l'entre-deux-guerres. Voilà, il était tout à fait fidèle à Moscou et il a milité pour l'international dans la totalité de l'Europe. Et puis, il a commencé à s'opposer à la dérive autoritaire au sein du parti, et puis à la figure de Staline. Et puis, il est devenu trotskiste, et puis il a finalement rompu. Et pendant toute il a finalement rompu avec le parti. Et puis, c'était un écrivain, c'est le premier écrivain de langue française, mais qui n'était pas français, donc de nationalité non française, à avoir obtenu le prix Goncourt. À côté de toute son œuvre de militant communiste, il a eu toute une pensée chrétienne qui s'est développée, une pensée religieuse, et voilà ce qui a donné lieu à pas mal de fécondité.
Mais je vois qu'on a quand même bien... je pense que vous avez vraiment entendu une fois le nom de chacune des figures, il n'y aura pas de surprise. Peut-être je rappelle le nom de Vida Dutton-Scudder, parce que moi je l'adore maintenant, et en fait on ne la connaît pas du tout. Et c'est une écrivaine universitaire états-unienne qui a fait partie de ce mouvement qu'on appelle le Social Gospel, qui est un mouvement protestant au début du XXe siècle aux États-Unis qui combat les injustices du capitalisme américain. Et qui invite les églises à dépasser la vision de la charité comme un acte purement individuel pour avoir une réflexion politique, avec une aile un peu plus réformiste, portée par des universitaires, de grandes universités américaines, et puis une aile plus radicale, et elle fait partie de cette aile radicale, elle rentre au Parti Socialiste, il y a un grand débat, est-ce qu'il faut rentrer ou non dans le Parti Socialiste ? Certains disent non, parce que le Parti Socialiste est incompatible avec la foi chrétienne, même si on partage certaines valeurs, et elle dit non, justement, il faut qu'on fasse partie du Parti Socialiste pour pouvoir le transformer de l'intérieur, et y amener de l'expérience chrétienne et notamment des enjeux de non-violence. Et voilà, elle a écrit un grand ouvrage en 1912 qui fait cette synthèse entre la théorie socialiste, la théorie et plutôt la foi chrétienne, l'évangile. Et voilà, on l'a mise en a valeur aussi. C'était une femme lesbienne qui avait une vie qui ne correspondait absolument pas au canon de l'époque. Et donc voilà, c'est une personnalité particulièrement libre qu'on a voulu représenter. Et c'est pas forcément le nom qui vient en premier quand on parle de social gospel, donc on avait aussi envie de la mettre en avant. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Peut-être une dernière question. Le titre du livre, c'est « Il renverse les puissants ». Alors aujourd'hui, je pense que cette année, c'est l'année dans l'histoire où il y aura le plus de personnes qui vont aller voter dans le monde. C'est une année particulièrement riche en élections. Vous avez dit qu'il y avait une grande diversité entre les différentes personnes du livre en termes de programme, en termes de vision politique et spirituelle, etc. Mais est-ce qu'il y a quand même un programme, peut-être un programme politique qui se dessine en filigrane de toutes ces figures? Et si oui, quels seraient les points principaux dans tel programme?
Moi, je vote. Le mot socialiste est quand même beaucoup, est quand même très présent. Oui. Donc, c'est, il se revendique quasi tout socialiste. Je pense qu'il y en a.
Brzezinski.
Voilà, pas Brzezinski. Mais on avait beaucoup hésité avec le terme socialiste chrétien ou quoi. Donc, c'est quand même vraiment de ce côté-là que la doctrine politique s'oriente. Après, moi, je botterai un peu en touche sur la question parce que justement, c'est un truc qu'on mentionne dans l'introduction. Voilà, le problème, en fait, ça pose la question du problème du lien entre politique et religion et des problèmes que ça peut engendrer, notamment le fait, par exemple, que la politique devrait réaliser le dire de Dieu, quoi. Dieu doit créer le royaume parfait, la politique devrait être le bras armé de la volonté de Dieu. Enfin, on voit ce genre de confusion qui peut émerger. Donc je ne pense pas que l'objet de ces... la question que se posent ces auteurs soit à partir du moment où je suis chrétien et socialiste, quelles sont les lois que je dois promulguer? Je pense qu'eux vont justement plutôt éviter cette confusion et vont plutôt insister, en tout cas, là, je pense à mes figures, mais à d'autres, plutôt insister sur le fait que la foi chrétienne va nourrir quelque chose, une impulsion, des priorités, l'amour du prochain, la charité, l'accueil de l'étranger, évidemment, le respect de la création. Ça va plutôt être des motifs. Mais après, la déclinaison de ces motifs dans un programme politique, c'est un autre exercice, je pense, qu'un exercice théologique.
Je pense que c'est aussi des figures qui sont... qui ont voulu rester assez libres vis-à-vis des partis qui ont, ça ne veut pas dire qu'elles ont déserté la sphère politique, mais leur engagement ont pu prendre d'autres formes. Par exemple, je crois qu'on n'a aucune figure qui a été élue de quelque échelle politique que ce soit. Mais voilà, par exemple, Dorothy Day, elle a créé avec Peter Morin tout ce mouvement des Catholic Workers avec des maisons d'hospitalité, des fermes communautaires, tout en étant présent aux côtés du mouvement ouvrier ou des chômeurs, en tant que chrétien ou que catholique. Donc je pense que y a une espèce de volonté de liberté intérieure qui, à mon avis, tient pas mal à leur foi chrétienne, c'est-à-dire au fait de toujours se tenir à distance de ce qui peut prendre la pente de l'idolâtrie de structures terrestres, par exemple. Que ce soit le parti, l'État, ou même le syndicat, même Simone Veil, elle a un petit peu évolué là-dessus. Elle a développé une vision un peu plus critique du syndicalisme de ses écrits. Mais par exemple, les partis, dès le début, elle disait que ça... Je sais plus ce qu'elle disait, que ça arrachait l'âme humaine. Enfin, voilà, ce genre de formule.
Non, j'ai pas de consigne de vote non plus. on risque de recevoir le poil, mais non, je crois que l'invitation si ces figures pouvaient être là, ce serait génial. L'invitation, c'est plutôt de s'engager dans les structures existantes et d'y amener notre christianisme. Alors pas forcément le brandir. Je crois qu'on est tous très différents à nouveau sur la manière dont on exprime notre foi. Et on s'est demandé aussi, parce qu'on a très, l'exercice que tu mentionnais, on l'a fait, à savoir de dire ça donne quoi le christianisme lorsqu'il intègre les acquis des sciences sociales. Mais on s'est aussi posé la question, ça donne quoi les chrétiens lorsqu'ils s'engagent dans les luttes, quelle est notre spécificité, qu'est-ce qu'on peut apporter, et on faisait le pari qu'on devait essayer de créer une gauche du pardon, une gauche empreinte de miséricorde, parce qu'on a quand même cette impression qu'à gauche il y a une très forte tendance à revendiquer une forme de pureté militante, et lorsqu'on connaît les codes, le vocabulaire, les manières de penser, lorsqu'on a les bonnes catégories, on se sent puissant et on aime en fait punir ceux qui ne correspondent pas exactement au cadre. Et d'ailleurs, il y a un excellent bouquin de Elsa Deck-Marceau, qui est une lesbienne queer, très engagée dans les diverses luttes à Paris, et qui parle du fait que la gauche est encore très fort empreinte d'un paradigme punitif en matière de gestion des conflits, avec ce qu'elle appelle le moralisme progressiste. On dirait presque des thèmes d'un livre anti-woke sur CNews, mais enfin, je trouve ça intéressant qu'elle reprenne ces termes et qu'elle montre qu'elle aussi, elle dit dans une conférence que j'ai écoutée d'elle, elle dit en fait les gens n'osent pas faire partie des groupes de gauche parce qu'en fait ils voient comment on se traite les uns les autres. Et ils voient bien qu'en fait on est horrible les uns avec les autres et ils n'ont pas du tout envie d'avoir pour amis des gens qui seraient prêts à aller rejeter le moment où cette personne ne correspond plus à l'idée qu'on s'est faite à un instant T d'ailleurs, parce que tout ceci est mouvant, donc il faut rester en plus, il faut prendre la balle au bon. Et donc voilà, nous on se disait, qu'est-ce que les chrétiens peuvent apporter? Peut-être, ça peut paraître paradoxal, parce que le christianisme est quand même très fort associé à cette idée de moralisation. Nous on se disait en fait, donc, ma réponse à toi, c'est... engageons-nous dans les structures déjà existantes. Moi, je ne suis pas pour qu'on recrée un parti chrétien, mais apportons-y la miséricorde qu'on a reçue du Père. Quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Est-ce qu'au-delà de vos 12, il y en a qui ont failli être dans le livre et puis...
Merci de la
question.
On a mis une liste dans l'intro en note de bas de page. Alors, mais il y en a, je pense, une trentaine.
Oui, enfin, pensé à Madeleine Delbrel.
Madeleine Delbrel, on en avait discuté entre nous. Il y a aussi Jacques Ellul, Georges Bernanos. Bon, Martin Luther King, évidemment. Mathias disait qu'on a voulu... prendre Fannie Lou Hamer parce qu'elle était moins connue, quoi. Mais effectivement.
Mais ce qui aurait été intéressant avec Martin Luther King, c'est de déconsensualiser Martin Luther King, qui était vraiment, qui avait une pensée socialiste en fait assez développée. Donc ça, on aurait pu le faire aussi. Ouais. Paulo Freire, qui tient quand même vachement à cœur de JB.
Ouais.
Voilà, il y a une petite piste ici, non exhaustive, mais
peut-être un tome 2, un tome 3.
Oui.
J'ai une question pour le tome 10. Est-ce que vous connaissez des Français ou étrangers, mais qui pourraient, dans 50 ans, entrer dans un... qui sont actuellement investis comme chrétiens en politique, et qui pourraient entrer dans un livre identique?
On a pensé à Adrien Louandre, on s'est dit que c'était un photo, on voulait pas qu'il prenne la grosse tête.
les figures montantes du christianisme contestataire qui sont en train de se créer une place au Panthéon en ce moment. C'est ça l'idée.
Et qui ne serait pas de droite. Parce qu'aujourd'hui, en France, c'est plutôt des gens à droite qui sont des figures chrétiennes investies en politique.
Non, il y a des figures chrétiennes investies à gauche en politique, hein, mais il y avait eu un papier de l'Humanité assez intéressant là-dessus qui parlait du Dorothy, un petit peu de tout cet écosystème. Et en fait, on voyait que chez les élus de gauche qui assumaient une appartenance chrétienne, il y avait une espèce de pudeur vis-à-vis de la place de leur foi chrétienne dans leur engagement, ce qui peut se comprendre par plein de raisons que voilà, je ne vais pas développer ici. Mais je sais pas. Bah, en fait, je pense qu'il y a quand même... Je trouve que notre génération ressemble aussi, enfin, à très modeste et petite échelle, au mouvement de ces figures-là, dans le sens où elle a une espèce de méfiance vis-à-vis de ces structures établies, de ce que peut faire la politique, peut-être une désillusion. Moi, à titre personnel, il y a des moments de ma vie où j'ai été très, très à fond sur un parti ou un candidat, machin, et puis en fait, après, tu vois que même quand un parti très à gauche, Syriza en Grèce ou quoi, arrive au pouvoir, ben en fait, il y a des blocages institutionnels qui les empêchent de mettre en place des choses, voilà, des changements profonds. ce qui ne veut pas dire qu'il faille déserter la sphère politique, mais en tout cas, je peux comprendre que dans notre génération, on sent un peu plus, on a envie de s'engager d'autres manières.
Bah, moi, je dirais juste que on a un peu fait exprès aussi de prendre des personnes qui soit sont déjà parties, soit sont vraiment en fin de vie, parce qu'il y a quelque chose, je pense qu'on a peut-être trop fait, à savoir mettre en avant une personnalité, alors qu'en fait, je vous apprends rien avec tous les scandales qui ont émergé. Je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir sur la manière dont parfois on idolâtre des personnes, et donc c'est aussi un risque de ce livre, et on en avait bien conscience, mais je pense que le risque est quand même atténué, en tout cas sur l'impact que ça va avoir sur leur comportement, puisqu'elles ne sont plus là. Mais on insiste aussi que ce ne sont pas des saints et des saintes, on essaye de montrer leur part d'ombre, et je pense que ce travail ne peut pas être fait à chaud lorsque les personnalités sont là, et qu'il ne faut pas le faire pour garder une horizontalité dans le pouvoir.
Oui.
Est-ce que vous savez rebondir sur ce que tu viens de dire, quel était le rapport de ces personnes au modèle de sainteté? C'est un peu une question en devant, sauf quoi avec ce que tu m'as dit, quel était leur rapport personnel, est-ce que c'était une inspiration qu'ils avaient? Et deuxièmement, quelle est la place qu'on perd dans l'église en tant que chrétien, toutes ces personnes qui ne rentrent pas dans le cadre des saints, mais on voit qu'il y a un dénominateur commun de justice et qu'on a du mal à désigner de manière unique.
D'autres idées, c'est l'exemple qui me vient en tête parce qu'elle était très marquée par des figures de saints, notamment Saint François d'Assise, Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Thérèse de Lisieux. Et elle avait aussi une manière de réinvestir un petit peu leur parcours avec son prisme politique, son prisme engagé, donc par exemple la pauvreté volontaire chez Saint François d'Assise, bien avant la Oblate aussi, ou la petite voix chez Sainte Thérèse de Lisieux, et elle mettait ça un petit peu en parallèle avec justement le fait de créer des communautés, des lieux où il soit plus facile d'être bon, comme disait Maureen, etc. Et j'ai pas d'autres exemples de rapport aux saints qui me viennent, mais après, comme on a beaucoup de protestants,
c'est moins central. Non, je n'ai pas. Là, je pense à Joseph Rzezinski qui, à aucun moment, il mentionne la sainteté comme un idéal qu'il essaye de suivre. Ce serait intéressant, j'avoue que là, c'est mon côté protestant qui fait que j'ai peut-être une ignorance sur à quel point c'est. Ce message de la sainteté a une grande influence, peut-être c'est très générationnel. J'ai l'impression que le pape François a quand même vachement remis ça sur la table, qu'on était tous et toutes appelés à la sainteté. Est-ce qu'eux font partie d'une génération où c'était moins présent, où Jean-Paul II a quand même beaucoup, on a quand même beaucoup canonisé sous son pontificat. Donc voilà, j'imagine qu'il y a des enjeux de ce type, mais j'avoue que je suis trop ignorant pour te donner une réponse convaincante.
Encore une question?
Je pense qu'il y a madame
derrière. Ah oui, pardon. Qu'est-ce que vous allez vous répéter, ou je ne sais pas, vous savez, vous êtes la plaque, mais je tente. Quel est l'intérêt, en fait, de la chrétienté pour les luttes actuelles, par exemple pour les luttes écologistes? Est-ce que c'est vraiment utile d'y intégrer la foi? Peut-être c'est nul de dire utile ou pas, mais
voilà,
c'est
une très bonne question.
Si ça peut vraiment impacter.
Ouais, moi j'aurais un peu deux réponses à.
C'est intéressant.
Pardon, t'as fini de poser la question?
Oui, désolé, attends.
Non, pas de souci. Moi j'aurais un peu deux réponses. C'est d'une part, en tout cas, mais ça, à titre personnel, mais je pense qu'on a quand même des points communs là-dessus. Le moment où j'ai commencé à m'intéresser à cette tradition-là, donc à ces idées-là, ces figures-là, c'était concomitant au phénomène Zemmour. Donc j'ai un peu pris conscience à ce moment-là que voilà, il y avait une je savais un peu, mais en tout cas c'est devenu très très visible dans l'espace public, qu'il y avait une extrême droite catholique très active et qui soutenait politiquement des candidats. Et donc, in fine, donc, rien qu'au niveau du milieu chrétien, il y a déjà un peu un clivage gauche-droite et un combat, comme dans tous les milieux, sans doute, où des convictions politiques ont lieu. Donc, ma première réponse, ce serait, en tout cas au sein de l'Église, l'Église catholique pour ma part, y a un combat à mener, un combat pour les idées, etc. Et donc là, c'est pas tellement intégré dans la lutte les idées, c'est juste qu'il y a un milieu chrétien, et le milieu chrétien fonctionne avec ces références-là, en citant la Bible dans les débats, etc. Et donc du coup, on s'inscrit dans cette discussion-là. Après, sur la question, peut-être du coup, en dehors de l'Église, et des désaccords qui sont internes, ou des effets que l'Église a sur le monde, personnellement, on organise du coup avec Mathias et d'autres amis une université d'été tous les ans qui s'appelle le Bâtir le Bien Commun. Ce sera du 5 au 7 juillet à Maredret. Vous êtes tous les bienvenus. Et donc dans cette université d'été, il y a un peu deux dimensions. D'une part, on organise des ateliers, des conférences comme à toute université d'été, un peu sur les sujets qu'on discute ce soir. Et puis à côté de ça, on suit la liturgie des heures, c'est-à-dire en fait le rythme des prières. Qui couvrent un peu toute la journée pour un catholique, les laudes et d'autres moments de la journée. Et donc c'est un peu à tout moment, quoi. Il y a un office au début de la journée, il y en a un au milieu du jour, il y en a un à la fin de la journée, etc. Et donc du coup on fait des allers-retours entre réflexion politique et intellectuelle et prière. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que là où il y avait énormément de divisions, de colère qui pouvait émerger dans les discussions intellectuelles et politiques parce que les gens ne sont pas d'accord, parce que ça vient les travailler, ça les renvoie à eux-mêmes, etc. De façon parfois pas très agréable, et puis ça crée beaucoup de clivages. En contrepoids de ça, les moments de prière recréent une forme de communauté et d'unité. Et donc je pense que, mine de rien, dans les pratiques chrétiennes, il y a peut-être quelques outils qui existent, des manières d'être ensemble, quand on chante ensemble, ça paraît bateau, hein, mais c'est des manières d'être ensemble, prier ensemble, rester en silence ensemble, tout ça c'est des pratiques. Pour le coup, les chrétiens ne sont pas très habitués, en tout cas à l'heure actuelle, à la lutte politique, mais ils sont habitués à la contemplation. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, dans des contextes où les milieux militants peuvent générer beaucoup de colère, de friction, ça peut apporter un ressourcement. D'ailleurs, je parle un peu de manière... j'ai pas tout à fait suivi le sujet, mais je sais qu'après les affrontements de Sainte-Soline, certains militants ont fait appel à des chrétiens pour venir animer des moments de réconciliation ou de... Voilà, d'intériorité, j'ai pas tout à fait suivi comment c'est passé, mais je sais qu'il y a eu un appel, quoi. Enfin, il y a eu quelque chose qui a eu lieu, une rencontre. Donc, ça signifie qu'il y a des ponts qui peuvent être faits là-dessus. On se dit, bon, il y a des ressources spirituelles, des manières d'être ensemble qui peut-être peuvent servir, peuvent être reproduites dans les milieux militants pour apaiser certaines choses. Voilà, je sais pas. En tout cas, moi, ce que je peux dire à titre personnel, c'est qu'en tant que chrétien, lier les deux. Me paraît un très bel équilibre. Maintenant, est-ce que ça peut être transposé à... On va arriver avec des outils de prière chrétien, par exemple, dans les milieux militants. Ça, c'est hyper compliqué parce que ça pose plein de questions au niveau sociologique, au niveau des habitudes, etc., que je ne pourrais pas résoudre ce soir.
Oui.
Question peut-être un peu proche, mais est-ce que vous savez, c'est possible de faire le même bouquin, mais avec 12 personnes plutôt à droite?
Ce sera pas nous, mais oui, certainement. Mais alors, oui.
Oui, bah non, ce sera aucun des trois, je pense. c'est quoi la question exactement? C'est est-ce qu'il y a
des chrétiens de droite? Ce livre-là, vous dites que forcément, si on est un bon chrétien, il faut être de gauche, ou est-ce que vous êtes prêt à vous dire aussi, en fait, des gars qui sont parfois nationalistes, parfois conservateurs, peuvent être aussi de bons chrétiens? Parce qu'ils vont eux aussi habiter leur combat politique par l'évangile et par la foi chrétienne.
Moi j'ai un exemple qui me tient beaucoup à cœur, mais j'aurais vraiment du mal à en trouver d'autres. C'est Georges Bernanos, qui a plutôt commencé à l'Action française, enfin pas plutôt, il a carrément commencé à l'Action française. C'est un admirateur de Drummond, etc. Et il a eu toute cette... il a écrit sur, je ne vais pas refaire sa biographie, mais voilà, tout son positionnement sur la guerre d'Espagne, pendant la résistance, au Brésil, etc. Ça l'a vraiment transformé, et je dirais qu'il a mis, pour le coup, c'est quelqu'un qui a mis la vérité au-dessus de ses idées politiques de base, tout en gardant quand même un ancrage conservateur jusque dans ses derniers écrits. Mais moi j'aurais du mal à citer d'autres figures comme ça.
Non, mais après, moi, j'ai pas du tout envie de me mettre dans une position de distribuer des bons, qui est bon chrétien. Enfin, c'est vraiment pas ma place, enfin, je crois que ça semble évident, mais je préfère le dire. Et je pense que, à nouveau, on n'est pas tous à l'aise avec l'étiquette de gauche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis en titre. C'est parce qu'il y a des figures qui dépassent largement cette catégorisation. Et c'est pour ça qu'on préfère les contestataires. Donc, il y a déjà cette volonté de ne pas reproduire exactement le clivage gauche-droite, même s'il traverse forcément le débat d'idées. Et par ailleurs, on n'est pas tous à l'aise avec cette étiquette. Moi, à titre personnel, je suis à l'aise avec l'étiquette chrétien de gauche parce que j'aime l'histoire de la gauche et les acquis sociaux qu'elle a pu... Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais en tout cas, je trouve ça cool. mais par contre, à la différence de milieu de gauche... peut-être notre attitude vis-à-vis de personnes de droite, conservatrices, nationalistes, réactionnaires, voilà, vous choisissez le qualificatif que vous préférez, notre attitude va nécessairement être différente. Et d'ailleurs, il y a des personnes chrétiennes conservatrices qui viennent à l'université d'été, et je pense qu'elles sentent quand même une attitude différente que si elles venaient dans un cercle militant de gauche. Et là, je reprends la phrase d'Emmanuel Mounier qu'on a mis dans l'introduction, qui dit « impitoyable avec les positions, humain avec les hommes ». Et ça, on se dit que ça reste... un bel horizon à essayer de tenir. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. De là à écrire un livre avec les 12 personnalités. Enfin voilà. Ouais, vu le vrai temps à investir, je le ferai pas, mais.
Vous avez bien répondu à tout.
Peut-être une dernière question, s'il y en a une.
J'aurais aussi une proposition, toujours d'écrire 13 portraits, mais pas seulement de chrétiens, mais de croyants.
Ouais, mais ça serait déjà peut-être un petit peu plus évident que la proposition. mais oui, absolument. Après, moi, personnellement, je connais assez mal les autres traditions spirituelles, mais il y aurait certainement de quoi faire.
Parce que l'interreligieux, en ce moment, a quand même, malgré certains événements, a quand même du souffle.
D'ailleurs, Dorothée Zeulle, dans son ouvrage majeur, elle cite beaucoup de musulmans, notamment de la tradition soufie, elle cite beaucoup de personnalités juives, donc elle représente ça assez bien dans son ouvrage. Mais c'est vrai que, comme Timothée, j'ai pas les connaissances pour avoir des propositions comme ça à brûle pour point, mais je pense qu'en effet, c'est peut-être quelque chose qu'on travaille peu ou pas assez, cette question de l'interreligieux ou même de l'écuménisme dans le livre. C'était pas le point d'intention, mais je suis d'accord que c'est très important.
Merci beaucoup. Merci.